si vous vous levez, on va lire juste un petit passage très court, mais quand même, c'est pour lire la parole. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous asseoir. Alors, c'est un passage, je voulais prêcher sur l'amour, que je me suis dit, pas les passages sur l'amour qui manquent des Écritures, mais celui-là me semblait très, très, très approprié. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Donc, c'est Jésus qui parle, puis il nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Par rapport au décalogue, oui, jusqu'à un certain point, parce qu'il dit que par l'amour, toute la loi est accomplie. Puis là, il dit, il nous donne un commandement nouveau. Alors, si que vous vous aimiez les uns les autres, c'est quand il nous donne la comment s'aimer les uns pour les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Et là, il place une barre. Et la barre, elle est extrêmement haute. Très, très haute. Alors, il dit, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. Puis là, il nous dit qu'on va avoir un test dans la vie. Tu sais, des fois, on passe des tests. Hein? On suit un cours. Il y en a des étudiants ici qui suivent des cours. Quand tu as fini ton cours, ils disent, bon, OK, on va checker si tu as vraiment compris ce que... OK. Là, il passe un test. Puis là, il dit, c'est à ceci que... tous reconnaîtront. Comment les gens vont savoir qu'on est des chrétiens? Des fois, je suis pas sûr que c'est... Des fois, je suis pas sûr que c'est toujours par cette façon-là qu'ils nous reconnaissent. Mais c'est pas à cause qu'on n'est pas à la hauteur que le commandement du Seigneur est changé. Rien du tout. Il dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, pour être un disciple, il faut aimer. Si on n'aime pas, on n'est pas un disciple du Seigneur. Parce qu'il dit, si vous avez de l'amour, il y a un si, hein, il y a une condition là-dedans. Donc, il y a trois éléments que j'aimerais toucher aujourd'hui avec ce sermon-là. C'est d'abord le fait que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Je voudrais profiter du moment d'une étude sur l'amour, pour en faire comme un tremplin pour parler de l'amour en général, regarder notre bilan personnel et aussi je vous inviterai à faire le bilan, votre bilan personnel en termes d'amour face à Dieu, face à vos frères et sœurs en Jésus-Christ, face à tous les êtres humains qui sont sur la terre. Vous allez voir que quand on s'examine le moindrement sérieusement, on se rend compte que... la barre est haute. Alors, je voudrais profiter de l'occasion. On est en fin d'année. Je voudrais regarder comment moi j'ai aimé mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Là, les yeux, hey, Marcel, on t'en a vu faire des bêtises hein, cette année. Ah! C'est vrai que j'en ai fait. Vois comment moi j'ai aimé mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous autres. Puis vous autres, ça. Puis, en même temps, comme je vous disais tantôt, je vous invite à demander à Dieu, que vous demandiez à Dieu de vous examiner à la lumière de ce que Dieu nous commande. Et là, on se rend compte que, oups, il m'en manque un petit peu ici, il m'en manque un petit peu là, il m'en manque avec ma femme, il m'en manque avec tel membre de l'Église, j'ai plus de misère qu'un autre. Puis je suis convaincu que tout le monde a la même difficulté à ce niveau-là. Alors, j'ai écrit différentes affaires, qu'est-ce que c'était aimer. Puis après ça, moi, je vais m'examiner à la lumière de ça. Aimer, c'est éviter d'offenser les autres. Au cours de l'année, il est fort probable que j'ai offensé des gens dans l'Église. Mais croyez-moi, c'est quand je vous le dis, je n'ai jamais fait ça volontairement. Mais je l'ai fait pareil. Un péché ne devient pas non-péché parce qu'on n'a pas fait exprès. Il est péché pareil. Il reste péché. Donc, je voudrais très sincèrement demander pardon. Sincère, là. Je ne veux pas... Vraiment sincère. Si j'ai offensé quelqu'un cette année, de quelque façon que ce soit, par une parole, par une attitude, par un geste, je vous demande humblement pardon. Je suis un pécheur. Je ne l'ai pas fait exprès. Puis si par... Non, je n'ai pas... Non, je ne peux pas dire si j'ai fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Donc, je peux avoir eu des mauvaises attitudes, des maladresses, des inconsciences aussi. Alors, je vous demande vraiment pardon. N'y voyez que l'expression de ma misère et de ma difficulté pécheresse à obéir à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Priez pour moi et que Dieu me fortifie et me fortifie dans l'amour par sa grâce. Deuxième chose concernant l'amour, aimer les autres, c'est chercher à les soutenir et à les aider, n'est-ce pas? Sans aucun doute, j'aurais pu faire mieux. À aider les autres, j'ai essayé, et j'ai eu des manquements. Cependant, j'ai authentiquement cherché à édifier tout le monde, à vous rapprocher de Dieu, et à être un exemple. Ça, c'est pas facile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on est placé comme... Oh, vous autres, là, il faut presque qu'on soit parfait. Ça n'en prend pas une grosse coche pour qu'on nous chiale. Puis, oh ben oui, lui, regardons ça, lui, comment ça? L'humilité nous oblige à reconnaître que nous n'avons pas toujours réussi. Pour ressembler à Jésus-Christ, nous avons beaucoup à apprendre et à corriger. Comme on l'a dit tantôt, la barre est haute. Troisième chose, aimer les autres, c'est pardonner les offenses. Moi, peut-être que je vous ai offensé. Mais peut-être que vous autres aussi, vous m'avez offensé. Alors, si vous m'avez offensé, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire pardonner. C'est ça que ça veut dire. J'ai été offensé par certains. Je leur pardonne entièrement, sachant que le Seigneur m'a aussi énormément pardonné. Et qu'il continue de le faire jour après jour. Que le Seigneur me donne d'être fidèle dans l'exécution de ce devoir jusqu'à mon dernier souffle pour sa plus grande gloire. Aimer, c'est aussi prier quotidiennement pour les autres. J'ai prié pour tous les membres de l'Assemblée sans exception. Cependant, j'avoue humblement que je n'ai pas prié aussi fervemment et aussi fréquemment que j'aurais dû. Que le Seigneur me conscientise davantage à l'importance de prier les uns pour les autres et pour toutes les requêtes qui sont placées devant nous chaque semaine. Vous remarquez que quand Josiane nous donne un petit bulletin comme ça, souvent, qu'est-ce qui arrive avec, hein? On arrive à la maison. Pas tout le temps. Il y en a. La plupart de vous autres, vous ne faites pas ça, là, mais peut-être qu'il y en a certains qui le mettent sur la table et qui restent sur la table toute la semaine. Ou peut-être même juste aux deux semaines, quelque chose. Ils restent sur la table pendant deux semaines. Pourtant, vous avez eu des occasions à tous les jours de prendre votre liste et de mentionner. Il y a eu les requêtes. Il y a des gens qui demandent de prier. Est-ce qu'on le fait? Quand on ne le fait pas, on manque à l'amour. Parce que c'est notre devoir de prier les uns pour les autres. Alors que le Seigneur aussi nous donne d'être fidèles à nos soirées de prière. On se devrait de prendre conscience de l'importance de la soirée de prière, de la puissance de la prière, de son efficacité. Et on se rend compte par le nombre de personnes qui sont présentes. Et ça, c'est pas juste cette année, là. Moi, ça fait 42 ans que je suis chrétien. Des églises, j'en ai vu plusieurs. Puis c'est la même affaire partout. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on observe que les gens font ça, qu'ils sont corrects pour autant. On est là, puis on se gargarise avec des mots comme « la prière, c'est important, la prière, c'est efficace, la prière, c'est puissant. » On n'est pas là. Qu'est-ce qui parle le plus fort? C'est nos gestes qui parlent. C'est pas ce qu'on dit. Aimer les autres aussi, c'est leur démontrer concrètement. Je prends le passage de 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Les Anglais disent « Don't say it, show it. » Ça, je trouve que « Ne le disons pas seulement, montrons-le. » Ça dit 1 Jean 3, versets 17 et 18. « Or, celui qui aurait des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermera ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. » Autre expression de l'amour, aimer les autres, c'est supporter leurs faiblesses. J'ai des misères, j'ai des faiblesses, mais vous en avez aussi. J'ai vraiment essayé de passer par-dessus certains défauts de frères et de sœurs, en sachant bien qu'ils ont à supporter les miens aussi. Que le Seigneur me donne d'être plein de compréhension, de compassion et de patience. Autre expression de l'amour, aimer les autres, c'est servir. Le service, c'est exigeant. Il nous semble n'être jamais à la hauteur des responsabilités que nous sont confiées. Quand quelqu'un dit « j'aspire à la charge d'évêque », comme ça dit dans les Écritures, c'est très bien, les Écritures nous disent que c'est bien aussi. Mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point c'est exigeant. Bien plus que qu'est-ce qu'on pense au début. Après bien des années, on s'en rend compte, parce que là, on se rend compte que c'est beaucoup plus de choses qu'on croit. Alors, la qualité et la quantité des services nous paraissent toujours insuffisants. Peu importe ce qu'on fait. Si vous mettez beaucoup de temps à préparer vos sermons, beaucoup de temps à essayer de comprendre les membres, les aider, téléphoner, on en fait. À partir du moment qu'on commence à s'arrêter et dire « Est-ce que j'en ai fait assez? » La réponse est toujours non. Est-ce qu'on aime tant que ça? C'est ça la question. Alors que le Seigneur me donne encore plus de zèle et d'amour dans l'exécution de mes tâches. Et la dernière chose, vu qu'on est en fin d'année, ça c'est comme une note joyeuse, aimer, c'est être reconnaissant. Je veux exprimer au Seigneur de la gratitude pour chacun de mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Là, je pourrais tous vous nommer un arrêt de l'autre, parce que vous faites toutes des choses pour l'Église. J'ai vu une bonne partie des gestes d'amour exprimés par les membres de notre assemblée. La musique, les chants, les cultes, l'accueil des nouveaux arrivants. On a eu des nouveaux arrivants cette année. J'ai vu l'Église, plusieurs membres de l'Église s'impliquer de façon très concrète et très régulière et très souvent pour accueillir des nouveaux arrivants. Alors, c'est sûr que si on s'examine ce qu'on ne fait pas, on en trouve beaucoup. Mais on peut aussi regarder ce qu'on a fait qui est correct, qu'on a fait correctement. Le ménage, la bâtisse. Il y a des gens qui viennent ici, lavent le plancher, passent la balayeuse, lavent les tapis, ils nettoient les fenêtres. C'est tous des petits gestes, là, qu'on a. Des fois, on n'est même pas là pour les voir. Mais l'amour, c'est aussi simple que ça. Et faire des choses pour nos frères et sœurs. Quand on rentre dans l'Église et qu'on trouve ça propre, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Là. Alors, merci à ceux qui ont fait le ménage dans la bâtisse. L'entretien du bâtiment, l'entretien du terrain. Je regarde certaines personnes en particulier. J'ai J'ai vu des personnes travailler extrêmement fort pour maintenir la bâtisse ici. Moi, je l'ai vu, quand vous l'avez acheté, là, il y a plusieurs qui l'ont vu aussi. Mais entre quand on est arrivé, puis maintenant, puis le terrain à l'extérieur, puis les fenêtres, puis la brique, puis les fenêtres, puis... Il faudrait tout nommer ce qui a été fait, puis de regarder le nombre d'heures que certains membres ont mis là-dedans, ou l'argent qui nous a été donné par certains membres pour entretenir la bâtisse, ou pour faire un beau stationnement. Tu sais, des fois, on oublie de mentionner ces choses-là. Le déneigement du balcon. On arrive l'hiver, des fois, il y a deux pieds de neige. Puis quand on arrive, nous autres, de l'extérieur, tout y va, la porte est ouverte, tout est... Combien il y a du monde qui ont travaillé là-dessus? C'est ça l'amour. Elle sort la préparation du repas du Seigneur. Ça a l'air d'une petite affaire, mais c'est à tous les mois. La participation aux activités sociales et communautaires, là, on en a de moins en moins, là. Mais quand on en a en temps ordinaire, juste de participer à un repas de Noël ou à une occasion comme ça, c'est ça un geste d'amour. On se rend compte qu'on aime nos frères et nos sœurs et on aime être présent avec eux autres pour partager des choses intéressantes. La bibliothèque, ça part quelqu'un qui s'occupe de placer les livres, étiqueter les livres, s'organiser pour les ramasser quand ils sont dus, etc., etc. C'est tous ces gestes-là qu'on fait, tout le monde dans l'Église, je pense qu'il n'y en a pas un qui n'est pas impliqué. D'une façon ou d'une autre. L'administration et la paperasse de l'Église. Moi, je sais ce que c'est. Je comprends ça. Il y en a de la paperasse dans l'Église. C'est-à-dire ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas. S'occuper d'un site web. L'enseignement d'école du dimanche. La garderie. Juste assister à vos cultes. Tu sais, des fois, il y en a qui font... Au baseball, ils font des moyennes. Hein, ils disent 300, moyenne au bâton, 300. Quelle est notre moyenne au bâton dans l'assistance au culte? Ça en est une expression de l'amour. Si vous voulez savoir si quelqu'un est proche du Seigneur, regardez le nombre de fois qu'il vient à ses cultes. C'est une indication. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une indication. Les prières qu'on fait en public, les prières qu'on fait en privé pour les autres. Combien d'entre nous ont une liste de tous les membres de l'Église et qui, à chaque jour, vous prenez le nom de la personne? Ah, OK, Hélène. Là, je nomme un nom, mais ça pourrait être n'importe quel nom. On passe les noms un en arrière de l'autre, on prie les uns pour les autres. C'est pas moi qui demande ça, là. C'est la Bible, c'est le Seigneur lui-même, prier les uns pour les autres. Quand on ne le fait pas, est-ce qu'on aime? On aime peu, en tout cas. Le soutien dans les épreuves et les difficultés. L'assistance aux malades. Il y en a actuellement qui sont à l'écart. Ceux qui s'occupent d'aller les rencontrer, d'aller les voir, d'aller leur donner des petites douceurs, de faire des petites commissions pour eux autres. Les visites et les communications qu'on a au téléphone pour les personnes qui sont en confinement. Les personnes qui ont offert du covoiturage. Les invitations de communion fraternelle qui se font dans les maisons. Là, il y en a de moins en moins, mais c'est une secousse qu'on aurait pu. Et tous les autres petits services discrets qu'on peut se rendre dans une église. À cette heure, on a vu, le Seigneur nous commande de faire ces choses-là, mais à cette heure, il nous donne une norme. C'est là que ça peut devenir, les deux bras nous tombent, parce que là, il dit, « Comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. » Alors, le Seigneur ne nous dit pas seulement ce que l'on doit faire, mais il nous fournit une norme. Comment on doit le faire? Le modèle, c'est simple, c'est Jésus lui-même. Jésus s'offre comme modèle à nous. Son amour pour ses disciples comprend différentes caractéristiques. Et c'est là que c'est important de regarder les caractéristiques et de regarder si nous, on les a, ces caractéristiques-là. Vous allez voir que c'est des grosses caractéristiques. La première, moi j'en ai trouvé six, mais il y en a sûrement plus que six. L'amour prédominant. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, un amour prédominant? Jésus a dit dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture... » Écoutez bien les paroles. C'est, il ne parle pas de bouffe, là. Il dit « Ma nourriture... » Il se nourrit de faire la « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, lui, faire la volonté de son Père, il se nourrit de ça. Est-ce que nous, on se nourrit de ça? Luc 14, versets 26 et 27. Ça, c'est un verset que j'aimerais beaucoup que les gens se rendent, l'apprennent par cœur. Le méditent et en comprennent le sens. Ça dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je me souviens, j'étais à Rouyn-Noranda, une nouvelle femme qui avait décidé de venir à l'église. Puis, ça faisait quelques semaines qu'elle venait. Je lui ai dit, « Quoi, maman, le téléphone sonne. » Oui, bonjour. Une telle, OK. J'aimerais ça vous poser une question. Puis là, Marie, avec Luc 14, 26 et 27, tu es en train de me dire qu'il faut que j'haïsse mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs? Je dis non, je pense que tu as mal compris le verset. Là. Ce qui veut dire le verset, c'est que si tu compares l'amour que tu as envers Dieu à celui que tu as envers ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta femme, ça a l'air de la haine. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire qu'on doit faire passer Dieu en priorité, en toute chose, en tout temps, même au-dessus de notre famille. Ça, on a de la misère à comprendre ça. Je peux vous le dire par expérience. Dans 42 ans de vie chrétienne, je n'ai vu des églises. Les gens, je blâme pas personne d'aimer leurs enfants. Je ne blâmerai jamais personne d'aimer leurs enfants. Mais quand ils ont le choix entre aimer Dieu plus que leurs enfants, personne qui va me faire dire que tu as bien fait de choisir ton enfant plutôt que le Seigneur. Parce que c'est ça que le verset dit. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa frère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, quand on est rendu, là, qu'on se fait dire telle affaire ou ben non, c'est ta vie que tu perds, là comme on est comme ébranlé, hein? Il dit, il ne peut être mon disciple. La barre est haute, là aussi. Donc, un amour prédominant. Ça veut dire que toujours placer Dieu en premier, en tout temps, en toute chose. Même lorsque les choix nous sont donnés entre aimer ta famille, qui est bien, mais si tu as le choix entre aimer ta famille et aimer Dieu, puis t'es en conflit, place toujours Dieu en premier. Si on savait, on disait tout à l'heure, il est beau, il est grand. Hein? Mais des fois, on trouve nos enfants ou nos familles plus gros, plus grands, plus beaux. C'est une réalité. Deuxième caractéristique de l'amour, quand Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Quelle autre caractéristique on peut trouver de l'amour de Jésus? L'amour sacrificiel. Matthieu, chapitre 16, versets 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. » Donc, ça implique le sacrifice. Il y a tellement de choses quand on aime. On pourra prendre l'exemple des missionnaires. Mais on peut aimer sacrificiellement sans avoir jamais été l'autre bord, aux Indes ou en Afrique, quoi que ce soit. Ça veut dire faire des sacrifices. On est obligé, quand on veut aimer vraiment quelque chose, quelqu'un, une assemblée, on est obligé de faire des sacrifices. Ceux qui pourraient nous en parler beaucoup, c'est des personnes qui sont allées, prends comme nous autres, on soutient Mme Hainaut, là, en Afrique, à 40 degrés, les chandelles fondent. Tu mets une chandelle grosse de même, là, elle fond. Les autres, c'est leur condition de travail, ils travaillent là-dedans. Si c'est pas ça, le sacrifice, c'est quoi? Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça, là. Ça veut dire que le sacrifice peut s'accomplir d'une multitude de façons, mais l'amour sacrificiel doit être présent pour qu'on aime comme Jésus. Troisième chose, l'amour obéissant. Oh là 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 là, l'obéissance. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime... » Analysez la phrase. « Si, conditionnel. Si quelqu'un m'aime... » Est-ce que tu aimes Jésus? « Oh oui, moi j'aime Jésus. »« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Gardera ma parole. » Est-ce que... ceci est présent dans votre vie de tous les jours. Garder sa parole, c'est ça que ça veut dire. Non seulement la lire, l'étudier, la méditer, la mémoriser, tout ce qu'on peut faire avec la parole. Il faut qu'elle soit présente dans nos vies. Il faut que ça soit quelque chose d'authentique, de réel, de concret. Quand on dit tantôt aimer, c'est concret. Si on passe des semaines sans lire la parole de Dieu, c'est pas normal pour un chrétien, c'est pas normal. Jamais personne ne va me rentrer ça dans le coco, dans le ciboulot. C'est Dieu qui vous parle. Puis, vous trouvez toutes sortes de raisons, toutes sortes de prétextes pour pas lire votre parole. On est manquant. Donc, l'amour sacrificiel, l'amour obéissant. L'amour persévérant. Jean 8, verset 31. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. » Le mot-clé là-dedans, c'est « si vous demeurez ». Vous avez la persévérance. Cinquième chose, l'amour manifeste. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, quelque chose qui est manifeste, c'est quelque chose qui est observable à l'œil nu. On le voit. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. Intéressant, une des dernières caractéristiques, la sixième, qui n'est pas la moindre non plus, l'amour humble. Jean, chapitre 13, verset 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et lors du souper, le diable ayant mis déjà au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus répondit et lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds, puis il est entièrement net. Or, vous êtes net, mais non pas tous, car il savait qui était celui qu'il trahissait. C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut dit, il a repris son manteau, il s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Il y a un beau pourvu, hein? Je lisais un passage, j'étais allé faire une recherche sur Internet, j'ai trouvé la... Monsieur, comme celui que j'ai étudié la semaine dernière, en tout cas, pas important le nom, là. Lui, il dit qu'il y a trois grandes leçons à l'intérieur de ce passage. Les leçons sont les suivantes. Seule, la première leçon, seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus dans le verset 1 à 9. Autrement dit, si je te lave pas, tu peux pas être mon disciple. La deuxième, donc la purification opérée à la croix, c'est ça qui rend notre relation avec Jésus possible. La deuxième leçon qu'il y a à apprendre du passage, versets 10 et 11, c'est que la confession régulière de nos péchés fait partie intégrante de la vie du disciple. Quand il a dit « tu ne me laveras pas les pieds », tout au complet, ça y est, non, juste les pieds. Qu'est-ce que ça représente les pieds? La marche chrétienne. Tu vas continuer... T'es net dans tout ton corps, mais tu vas toujours, dans ta marche chrétienne, tu vas te salir les pieds. Donc, ça l'implique. Va devant Dieu, demande pardon pour tes péchés, et ça va entretenir ta vie spirituelle. Et la troisième, c'est Jésus nous propose un modèle à suivre, celui de l'humble service mutuel. Nous devons imiter Jésus, se laver les pieds les uns les autres. C'est humble comme service. Troisième idée qu'on va regarder, c'est l'amour selon Jésus, c'est une condition. Ça dit que c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les Anglais ont une belle expression que j'aime beaucoup. Ils vont dire « It's where the rubber hits the road ». C'est une expression qui veut dire que, en théorie, on peut dire des choses, mais c'est dans la réalité que tu vas voir si ta théorie fonctionne. It's where the rubber hits the road. Ça veut dire, on a beau dire, si je dis à une assemblée de chrétiens, qu'on soit 10 000 chrétiens ou 10 millions de chrétiens, si je dis aux gens, aimez-vous les uns les autres, l'amour est important, je vais avoir un amen de 1 million de personnes. Where the rubber hits the road, c'est quand il va y avoir des conflits dans l'Église, quand il va y avoir des difficultés dans l'Église, que là, qu'on va voir si on a vraiment compris qu'est-ce que les Écritures nous enseignent. Il y a des catégories de choses qui se passent dans une Église dans laquelle c'est difficile d'aimer. Je vous en nomme quelques-unes. Celle d'exercer la discipline. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, la discipline d'église ne s'exerce peu ou pas du tout. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens voient des problèmes dans l'église. Là, c'est pas juste notre pasteur. Les gens de l'église n'interviennent pas parce qu'ils disent « Ben là, c'est pas de mes affaires, c'est toi, pasteur, s'occuper de ça. » Les gens n'interviennent plus, les gens ne se reprennent plus, les gens ne se réprimandent plus. Les gens ne se font plus dire « Hey, t'es pas correct en faisant ça. » On a peur. Et quand les églises tombent dans ce panneau-là, on est dans le panneau du diable. Définitivement. Alors, faire la discipline, c'est pas chercher des bébites dans les comportements des gens, dans les assemblées, pour voir qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, puis les mettre sous discipline. Normalement, la discipline, les Écritures nous donnent, il y a plusieurs passages qui nous disent comment on doit l'exercer et qu'on se doit de l'exercer. Parce qu'une Église qui abandonne la discipline, comme le disent les Anglais, « going down the drain », elle s'en va, elle perd toute sa puissance. Donc, aimer, c'est aussi exercer la discipline. La discipline dans l'Église locale peut être définie comme étant les mesures confrontives. Autrement dit, quand on fait de la discipline, on confronte des personnes. Voici de quelle façon tu as agi, et voici de quelle façon nous, on croit que tu devrais corriger. Il y a une confrontation qui se produit là. Et corrective, le but, c'est pas de montrer à l'autre qu'il est impétent. Le but, c'est de corriger, amener une correction. Et ça peut se faire d'individu à individu dans une assemblée. Ça peut se faire aussi, les leaders de l'Église se rendent compte et décident que tel comportement est inacceptable et qu'ils se doivent d'intervenir et de demander que ça change. La discipline, c'est pas une punition. La discipline, son objectif ultime, c'est la restauration et la réconciliation du croyant qui s'égare. Quelques versets, Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. C'est tellement facile de demander au pasteur de toutes les choses qui se font dans l'Église. Là. La Bible ne dit pas « Pasteur, faites-ci ». Remarquez le premier mot, « frère ». C'est tout nous autres. Si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ça veut dire que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Redressez-le dans un esprit de douceur. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, n'ayez point de relation avec lui et ne mangez même pas avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est à l'Église à s'occuper de faire... Tu sais, dans le fond, il y a une expression qu'on parle des fois quand on parle de relations familiales, on dit « on va laver notre linge sale en famille ». Bien, des fois, dans une Église, il faut le faire. Et Matthieu 18 nous dit aussi comment on se devrait de le faire. « Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. » S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ça, c'est un point qui est difficile à faire. Aimer dans la discipline qu'on a à se faire dans l'Église, c'est difficile à faire. Si vous l'avez déjà essayé, si vous l'avez déjà vu dans d'autres églises aussi, j'ai les deux, j'ai l'expérience des deux, et c'est difficile, très difficile. Les gens ne s'imaginent pas que tu peux passer des semaines que tu ne dors pas. À cause que tu... tu es énervé pour ça, tu as peur des conséquences de ce qui va arriver, comment il va prendre ça, comment elle va prendre ça, etc. Autre catégorie, aimer, c'est aussi avertir, reprendre et exhorter. Dans un article de blog intitulé « Oser reprendre un autre chrétien avec amour et sagesse », Dominique Anger fait la remarque suivante. Dans la vie d'Église, il n'y a pas grand-chose de plus difficile ni de plus sensible que de devoir reprendre un frère ou une sœur qui fait fausse route. À l'époque du « chacun pour soi », il est tellement plus simple de faire l'autruche et de se mêler de ses propres affaires. Ça ne me regarde pas. C'est au pasteur s'occuper de ça. C'est ça que la Bible enseigne? C'est pas ça que la Bible enseigne. Acte 20, verset 31, ça dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec larmes. » Paul y parle. Pensez-vous qu'il dit ça pour le fun avec larmes? Je dis que Paul y broyait des fois de voir certaines situations dans les églises locales dans lesquelles il était. Il avertissait les gens et ça les emmenait aux larmes. Puis c'est vrai que des fois, c'est ça que ça fait. Ça nous amène, là... Colossiens, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, « Je n'écris point ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes chers enfants. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 et 13. « Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14 et 15. « Et si quelqu'un n'obéit point à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il ait de la confusion. Toutefois, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-vous comme frère. » Et la dernière chose que je veux vous mentionner, c'est quelque chose qu'on a un problème dans l'Église. Je veux l'amener parce que je trouve que c'est une belle conclusion. Where the rubber hits the road. Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Là, je vais aller lire un autre verset. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 et 10. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se perd ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. » On sait qu'on n'a pas tous les mêmes critères pour évaluer ce qui est décent et ce qui n'est pas décent. Et ça crée des conflits dans l'Église. Ça crée des personnes qui sont insatisfaites de la tenue vestimentaire de certaines femmes. Et ça les scandalise au point qu'ils veulent quitter l'Église. Quand vous êtes pasteur et qu'il vous arrive une affaire de même, là, à vous dire une affaire, les deux bras vous tombent. Je veux pas... L'idée n'est pas d'apporter un blâme sur qui que ce soit. Sur la tenue vestimentaire, sur celui qui trouve ça scandaleux. C'est que là, on a un exemple. Si ta tenue vestimentaire amène un frère au point où il est dérangé, au point qu'il veut quitter l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la réponse c'est « Oh ben là, il y a un qui regarde ailleurs, ça peut pas son affaire. » C'est ça que la Bible nous enseigne? Non. Qu'est-ce que ça dit? On le répète. Il est bien. Ici, il nous enseigne un principe. Il ne nous parle pas juste de viande, puis il ne nous parle pas juste de vin. Il nous parle d'un principe. Quand on a un comportement qui dérange ton frère, il utilise 3 mots, une occasion de chute, une occasion de scandale ou une occasion de faiblesse, on se devrait de tenir compte de ce que l'autre dit. Par amour, c'est ça l'amour. Et si on ne le fait pas, ben l'Église se désagrège tranquillement. C'est facile à dire, « Ah, ben c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute à moi, puis c'est pas... » Misère, mes amis. En tout cas, vous le dites, on a un problème comme ça, j'ai pas nommé de nom, puis cherchez pas. S'il y a une chose qu'il faut pas faire, quand on reçoit un enseignement comme celui que je vous donne ce matin, c'est d'essayer de mettre des noms. « Oh, ben ça, ça doit être un tel. Oh, ben non, ça doit être un tel. » C'est pas ça. Là, quand on fait ça, on s'éloigne du problème. On cherche à blâmer celui qui nous blâme. Voyez-vous, on cherche à virer les choses à l'envers. Examine-toi, regarde si tu es une occasion de chute pour ton frère. Et si tu n'es une, ben, change. Tout aussi simple que ça. C'est simple, hein? L'amour, c'est ça. Trois applications. Jésus-Christ est notre chef suprême, notre général. Obéissons-lui. Il nous a commandé de s'aimer les uns les autres. Que le Saint-Esprit nous sonde pour vérifier notre degré de conformité à son ordre et demandons les grâces correctrices correspondantes. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a mis toutes choses sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. C'est lui le grand patron. Deuxième grande idée, Jésus nous a proposé un modèle parfait pour savoir comment aimer. Et ce modèle-là, c'est lui-même. Sa manière d'aimer est, on l'a nommé tantôt, prédominante, sacrificielle, obéissante, persévérante, manifeste et humble. Les quatre évangiles sont remplis de son amour incomparable et ineffable. Troisième application, lorsque les gens autour de nous ou les membres de l'Église locale nous observent, peuvent-ils voir que nous lui appartenons et que nous manifestons authentiquement des signes visibles que nous voulons ou que nous commençons à ressembler à Jésus-Christ? Prions fervemment. Que le Seigneur nous transforme et que tout en nous reflète les glorieuses qualités de notre Sauveur. Que Jésus-Christ soit loué, béni et adoré éternellement.